premières émissions qui ont été dangereuses, c'est l'iode, l'iode 131, qui est donc un élément radioactif, mais qui a une durée de vie relativement courte, qui peut avoir contaminé des populations importantes, même avant l'évacuation. Donc déjà, il y a une incertitude sur les conséquences, parce que les conséquences éventuelles de cancer de la thyroïde ne se produisent que décalées dans le temps, et c'est tout le problème de la radioactivité. La deuxième importance, c'est les émissions de césium, et là, il y a deux isotopes du césium, le césium 134 et 137, qui se sont déposés là de façon importante et qui sont plus dangereux à terme puisque leur période est plus longue. En particulier, le césium 137 a une période de 30 ans. Cette période, ça veut dire que la moitié ne disparaît qu'au bout de 30 ans. Donc vous voyez que sur des zones qui sont avec des contaminations fortes, ça fait des périodes très longues, par exemple, pour diviser par 10. Donc ce sont des zones qui sont interdites d'une part. D'autre part, il y a des conséquences sur les cultures d'un certain nombre de produits, des produits qui peuvent concentrer plus ou moins la radioactivité, donc le fait que des gens puissent manger des produits, des fruits ou des légumes ou champignons, etc., soit des végétaux, soit de la viande, soit des produits laitiers, qui viennent de ces zones qui sont relativement étendues, puisqu'il y a la zone des 20 km, mais on sait qu'il y a des points de radioactivité fortes tout à fait en dehors de cette zone.
Quelles mesures sont prises au niveau sanitaire pour prévenir ces risques pour la population, pour les gens qui habitent toujours autour de cette zone ?
Il y a un certain nombre de mesures et des interdictions de manger des aliments qui seraient contaminés. Le problème qui se pose, c'est que les gens en particulier qui sont pauvres, ils sont bien obligés de continuer. C'est un peu ce qui continue à se passer autour de Tchernobyl. C'est-à-dire que c'est très difficile d'interdire radicalement de manger tous les produits, sachant que certains peuvent être radioactifs. Et ça, c'est uniquement par rapport à la pollution radioactive terrestre, puisqu'on sait qu'en fait, le Japon a échappé à une catastrophe encore plus importante, puisque si le vent avait soufflé dans l'autre sens, c'était toute la zone de Tokyo qui était sous le nuage radioactif. Donc là, il y a une partie importante qui est allée sur la mer. Alors évidemment, dans l'immédiat, il n'y avait pas de population qui était touchée, pratiquement pas par cette radioactivité marine, mais par contre, il y a le problème des poissons qui soient susceptibles d'être radioactifs, etc.
À propos du Japon, évidemment, mais disons qu'on peut l'étendre à d'autres pays confrontés au risque nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de vraiment décontaminer une zone ? Est-ce qu'on sait le faire de façon durable ?
Pour décontaminer une zone, il faut enlever toute la végétation et enlever la terre sur une certaine épaisseur. Donc c'est colossal. Vous n'avez pas de méthode de décontamination comme ça qui permettrait d'enlever la radioactivité sans enlever les matériaux qui la contiennent. Et donc en fait, ça serait des quantités énormes de, par exemple, la décontamination des forêts, c'est pratiquement impossible. Il faut attendre que la radioactivité décroisse, mais vous n'avez pas de moyens réels. Il faut couper la végétation et en plus la transformer en déchets, stocker ces déchets quelque part, enfin, c'est extrêmement compliqué.